Alors, parmi les nombreuses facettes de l'éclectique, Eduardo Huerti, traducteur, éditeur, auteur d'anthologie, scénariste, journaliste culturel, critique littéraire, je vais m'intéresser à celle de l'écrivain en abordant la première étape de son œuvre narrative. Première étape correspondant au corpus de ma thèse, je l'avoue. Première étape constituée de 5 livres. Un recueil de nouvelles, Los Pájaros, un recueil de micro-récits, La vida imposible, et 3 romans, Agua, La mujer de Wakefield, Todos los funes. À mes yeux, la Sombra del Pujil amorce une nouvelle phase, parce que Berti ancre l'histoire en Argentine après avoir expatrié, entre guillemets, celle des 3 romans précédents. Dans mon travail, j'abordais ce corpus sous l'angle des genres et formes littéraires, dont l'examen de la pratique allait révéler la richesse et la diversité de l'œuvre. Alors l'étude préalable de la dialectique entre formes brèves et longues me permettait de passer du franchissement générique, des frontières entre les genres ou formes, au franchissement textuel, en étudiant les relations des textes de Berti avec d'autres textes, avant de m'interroger sur la façon dont l'œuvre pouvait traduire l'ensemble de ses procédés d'écriture au niveau de la fiction. Aujourd'hui, je vous propose de suivre l'une des pistes que j'ai eu le plus de plaisir à explorer à travers la question du fantastique, ou plutôt de l'extrañamiento, ou plutôt du chemin qui mène de l'un à l'autre chez Berti. Il s'agit d'aller du plus manifeste au plus subtil, du plus superficiel au plus profond, en partant d'une définition assez large du genre fantastique. Je parle du fantastique contemporain, plus intellectuel que le fantastique classique, qui est plutôt en relation émotionnelle avec l'événement. Donc une définition ouverte comme celle que propose Ana Maria Barenechea. La literatura fantástica presenta en forma de problema hechos anormales, anaturales o irreales. Pertenecen a ella las obras que ponen el centro de interés en la violación del orden terreno natural o lógico y por lo tanto en la confrontación de uno y otro orden dentro del texto en forma explícita o implícita. Au cœur du fantastique, donc, la coexistence de deux ordres, l'ordre normal, commun, et un ordre autre, qui n'a pas besoin d'être surnaturel pour faire problème. J'envisagerais donc un fantastique suffisamment ouvert pour correspondre à une définition canonique du genre et tendre vers ce que Huerti appelle l'extrañamiento, sorte d'attitude volontaire consistant à regarder les choses de façon à les rendre étranges, à faire ressortir leur étrangeté. Dans une certaine mesure, les 5 ouvrages qui m'occupent sont issus de l'application de ce regard singulier au réel. Je les aborderai donc ensemble, sans gommer leurs spécificités respectives, y compris dans leur rapport au fantastique, ou à l'extrañamiento. Alors, après avoir évoqué les manifestations les plus visibles du genre, j'examinerai les expressions dans l'œuvre de ce regard révélateur d'étrangeté. Je m'arrêterai ensuite sur quelques procédés d'écriture spécifiques avant de m'interroger sur la signification de la pratique bertienne du fantastique. Du double aux coïncidences mystérieuses, des perturbations temporelles à la dissolution de limites prétendument intangibles, des monstres aux prodiges les plus divers, Berti explore une vaste gamme de thèmes et motifs traditionnellement associés au genre fantastique. J'avance parce que j'ai d'autres choses peut-être plus intéressantes à dire, donc voilà, c'est une simple liste. Un commentaire sur le troisième thème en particulier, qui est décliné en disparition des frontières respectives entre réalité et représentation, rêve et réalité, vie et mort, et qui reproduit finalement à la fois le fonctionnement de la transtextualité, le rapport des textes avec d'autres, au-delà des frontières textuelles donc, et le dépassement des catégories génériques. Donc en développant ces thèmes et motifs, en particulier dans Los Pájaros, La vida imposible et Todos los funes, Berti renouvelle des éléments traditionnels du fantastique, éléments qui, sans être forcément marqués par le surnaturel, restent aisément identifiables. Tandis que certains climats, fortement imprégné d'étrangeté, signale une tendance beaucoup plus nébuleuse du fantastique bertien. Le concept freudien d'inquiétante étrangeté repose sur un paradoxe, rappelle Jean Fabre. Alors, j'avoue que je ne sais pas prononcer l'allemand, donc vous m'excuserez. Unheimlich est le contraire de heimlich, qui signifie familier. L'étrange est donc ce qui n'est pas familier. Mais le mot heimlich possède un autre sens, caché, tenu secret, en conséquence effrayant. L'unheimliche, l'étrange effrayant, s'oppose donc au familier qui, en tant que caché, est lui aussi effrayant. Les deux contraires morphologiques ont finalement le même sens. Si l'étrangeté naît du quotidien, la faire ressortir suppose de porter sur le réel un regard décalé, étrangeant, un regard qui met en question la réalité. Extrañamiento et inquiétante étrangeté sont donc étroitement liés, le premier étant le moyen de révéler la seconde. Certains fragments des romans ressemblent aux bribes d'un discours sur le familier inquiétant, référence explicite ou allusion, comme ce passage de La Mujer de Wakefield, qui pourrait décrire le fonctionnement de l'inquiétante étrangeté en le transposant au plan de l'histoire. Tan familiar encontró su rostro Elizabeth. Al mismo tiempo, y por una razón algo esquiva, el visitante provocaba en ella un recuerdo atemorizante y otro apaciguador, como si su rostro remitiera a dos situaciones antagónicas e incompatibles. Cette ébauche de métatexte fait saillir les indices de la présence du familier inquiétant dans les romans, tels le chat énigmatique ou la toux colorée du protagoniste de Todos los Funes qui, secoué de fréquentes quintes, crache des substances aux teintes d'encre. Quant à la concrétisation, ou plutôt l'application au sens propre de formules stéréotypées désactivées, elle est à la fois un signe et un mécanisme de l'unheimlich. Prise à la lettre, certaines expressions familières se voient réinjecter du sens et dès lors inquiètent. Il y a tout un tas d'exemples dans La vie d'un possible et que je ne développe pas. Donc au-delà de ces traces finalement ponctuelles, le familier inquiétant se manifeste de façon souvent diffuse, à travers une atmosphère liée à l'espace diégétique des romans. Dans La Mujer de Wakefield, l'espace ne cesse de refléter, voire désigner le mécanisme du fantastique. Je cite ici « La misma esquina de siempre se vuelve de pronto una frontera entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario que no circunda su casa, dit-on. » Brèche, point de passage du connu à l'inconnu, l'angle de la rue concrétise l'inquiétante étrangeté. Plus globalement, dans ce roman, la duplication spatiale et le motif récurrent de la perte de repères dotent l'espace londonien d'une dimension labyrinthique. Dans Agua, c'est l'autre exemple que je prendrai, l'isolement, l'enfermement et l'ostracisme sont les caractéristiques d'un espace fortement concentrique. On a un château, celui de Villa Natale, qui fascine et envoûte et qui est un lieu fragilisé, notamment par une fissure grandissante, version portugaise de celle qui lézarde la maison Usher dans la célèbre nouvelle de Poe. De ces exemples, et il y en a d'autres, il ressort que l'extrañamiento se prolonge dans la construction d'un espace qui, loin d'être un simple cadre, concentre une grande part de l'étrangeté. Étrangeté multiforme qui atteint un degré supérieur encore lorsqu'elle rejoint l'absurde. C'est surtout dans La vida impossible qu'une forme originale de celui-ci se développe. En décrivant un rite improbable, El árbol personal est un exemple de logique portée à l'extrême au point de basculer dans l'absurde. Il y est question d'une vieille coutume bolivienne consistant à attribuer un arbre à tout premier garçon d'une famille. Et si l'aîné avec arbre donc, venait à mourir, on attachait son corps au tronc de l'arbre préalablement coupé, on jetait l'ensemble à la rivière. Et inversement. Hoy el rito, je cite, podría parecer poético, pero en ocasiones ocurría algo tan temido. El árbol se secaba y moría antes que el hombre. En tal caso, el primogénito debía donar su vida. Y lo que el río recibía era lo mismo, aunque al revés, es decir, un tronco atado a un hombre muerto. Alors, comme le reste des miniatures, ce texte gagne une dimension supplémentaire en partageant l'espace libre avec d'autres micro-récits. Et on assiste à une sorte d'effet recueil qui permet donc à l'accumulation de cas extraordinaires exposés au lecteur de dessiner un univers régi par un ordre autre, un monde où l'absurde devient la nouvelle logique. Qu'elle porte un fantastique très lisible, comme j'ai tenté de l'expliquer au début, ou un extrañamiento plus diffus, l'écriture berthienne de l'étrange se caractérise par quelques procédés singuliers. Alors, présent dans les 5 ouvrages et relativement abondant, le vocabulaire de l'étrange n'est pas réservé au surnaturel. Par rapport aux multiples cas insolites rapportés, La vida impossible est, quant à lui, si on parle du recueil, donc contient peu de termes qui expriment l'étrangeté. La présence sporadique de ce lexique et son utilisation souvent décalée s'expliquent par la simulation de normalité qui est mise en place dans de nombreuses miniatures. La richesse du vocabulaire de l'étrange, donc qu'il soit très présent, discret ou dévié de son usage premier, coexiste avec une tendance non pas opposée mais complémentaire, la difficulté de dire. C'est le « faute de mieux » avec lequel on pourrait résumer le mode d'expression du fantastique. C'est Joël Malrieux qui le définit ainsi. Si le langage fait logiquement défaut au moment de signifier des phénomènes à la limite du surnaturel, chez Berti, les cas où il renonce à fixer un sens ne se limitent pas aux textes qui s'inscrivent d'emblée dans le fantastique. C'est dans toute l'œuvre, finalement, en recourant à la comparaison, à l'approximation, à l'indéfinition, que le langage cherche et trouve des voies détournées. au lecteur de combler ses silences, y compris lorsqu'il s'agit de dire des faits non pas inexplicables, mais tout simplement, curieux ou incertains. Travaillant l'ensemble du corpus, la tension donc entre des mots qui sont un peu des signaux d'alerte et au contraire des formules qui témoignent de l'hésitation du langage, confirme à mon avis l'ancrage de l'œuvre dans l'extraniamento. À la différence du merveilleux, le fantastique se caractérise par un souci de vraisemblance. C'est un peu la deuxième marque d'écriture que je distinguerai ici. Au sens où l'irrationnel apparaît comme une perturbation dans le genre fantastique classique. Cette préoccupation se manifeste encore dans Los Pájaros, même lorsque Berti jongle avec les attentes du lecteur quant à l'explication du phénomène mystérieux. Bon, il y a plusieurs exemples encore. En revanche, cette préoccupation pour la vraisemblance semble avoir disparu de La vida imposible, où le fantastique est en quelque sorte à prendre ou à laisser. En entrant de plein pied dans le territoire de l'impossible, le lecteur des miniatures doit accepter les faits narrés sans avoir besoin d'y croire ou de feindre d'y croire. Donc le traitement de la question de la vraisemblance évolue d'un recueil à l'autre et les romans se situent en quelque sorte dans l'entre-deux. Dans Todos los Funes, on a notamment la formulation de trois théories au sujet de la toux colorée du protagoniste. Et ce passage illustre, à mon avis, la façon dont Berti détourne le poncif de l'hésitation todorovienne entre explication rationnelle et explication surnaturelle. Quant à la il y a aussi un autre phénomène récurrent, c'est celui de la perception brouillée. Donc beaucoup de personnages voient mal les choses. C'est une autre modalité du jeu avec la vraisemblance pratiquée dans l'ensemble du corpus. Propre cette fois au recueil de miniatures, le dernier procédé que j'examinerai a à voir avec un ton ou une variété de tons dont la caractéristique commune serait la pratique quasi systématique du décalage. Le hiatus entre énoncé et énonciation passe par une parodie de style journalistique à l'origine de l'impassibilité des narrateurs impersonnels face aux faits les plus insolites. Et cette impassibilité ou neutralité caractérise également les narrateurs personnels qui rapportent des anecdotes extraordinaires comme si de rien n'était, et lorsqu'ils emploient le vocabulaire de l'étrange, ne le font pas forcément pour nommer ce qui, a priori, l'est le plus. L'ironie se dissimule dans le simple fait d'évoquer avec naturel des événements tous plus étonnants les uns que les autres, et elle se combine à un humour omniprésent, souvent sombre, parfois noir, qui peut rejoindre une forme de cruauté. Au-delà de la spécificité de chaque ouvrage, les textes qui s'inscrivent d'emblée dans un fantastique très visible se distinguent de ceux où règne une étrangeté plus discrète. Dans la première catégorie, Los Pájaros et Todos los Funes relèvent plutôt du fantastique de l'indétermination, quand les miniatures de La vida imposible correspondent à un fantastique plus ludique, nourri par le ton décalé des textes. Et dans la seconde catégorie, Agua et La mujer de Wakefield, produits d'une pratique subtile de l'extrañamiento, font la part belle à l'espace et aux atmosphères particulières. Mais Berti développe aussi certains thèmes classiques du fantastique, tout comme il fait de l'absurde un élément essentiel de l'étrangeté dans La vida imposible. Les deux tendances peuvent donc se rejoindre autour de procédés communs, finalement. Alors, si le fantastique est l'une des modalités de cet extrañamiento qui, comme le suggère ici Berti, correspond à une tradition de la littérature du Rio de la Plata, les deux notions désignent alors des réalités partiellement superposées. Or, à l'échelle de son œuvre, l'auteur explore, il me semble, le fantastique jusque dans ses limites, comme s'il cherchait à l'étirer, à le faire coïncider avec l'extrañamiento. En un sens, les textes redéfinissent le fantastique bertien comme un extrañamiento qui rayonne dans l'ensemble du corpus, manifestant ce goût de l'étrange pour l'étrange perçu par un critique dans La vida imposible. Littérature au carré. C'est ainsi que Jean Fabre désigne le fantastique en général. De la même manière, jusque dans sa tendance à coïncider avec l'extraniamiento, le fantastique bertien est peut-être une sorte d'écriture au carré. Pour Michel Lafon, si le fantastique a pour essence de dire, je cite, « le passage furtif du connu à l'inconnaissable », il a aussi vocation à interner précisément cette mixité générique, à s'ériger en méta-genre littéraire, ayant pour fonction essentielle de signaler que quelques-unes des plus belles aventures littéraires de notre temps sont des aventures transtextuelles ou transgénériques. Dans une certaine mesure, cette incarnation de la mixité générique est identifiable dans le fantastique bertien. En inscrivant ses ouvrages dans des genres et des formes qu'il subvertit, Berti brouille les catégories. La fragmentation des romans, donc c'est ce que j'ai expliqué dans mon travail de thèse en fait. La fragmentation des romans, autant que la mise en recueil des nouvelles et miniatures, invalide tout classement définitif. Le bref et le long finissent par se rejoindre et se superposer comme si leurs caractéristiques respectives s'inversaient. Les limites donc cessent d'être étanches et le fantastique reflète cette perméabilité. Par ailleurs, si les textes de Berti sont autonomes, ils franchissent leurs propres limites en renvoyant à d'autres textes préexistants ou à venir. Il y aurait des multiples exemples. Donc en tant qu'image de la transtextualité, les thèmes du double et de la circularité temporelle gagnent une portée aussi également métagénérique. Donc en un sens, le fantastique thématise le jeu que pratique l'auteur avec les genres, un jeu dans lequel la forme brève, souvent considérée comme forme privilégiée du fantastique, a un rôle clé. Chez Berti, l'adéquation entre brièveté et fantastique fonctionne. Los pájaros et la vida imposible s'inscrivent d'emblée dans le genre fantastique. Et c'est plutôt l'extrañamiento qui est à l'œuvre dans les romans, lorsque la forme brève là, travaille et fragmente un texte long. Alors, si cette concordance entre brièveté et fantastique est liée à une insaisissabilité commune entre les deux, finalement, alors l'affinité est peut-être encore plus grande entre fantastique et hyper-brièveté. Finalement, on pourrait dire que plus un texte est bref, plus il semble déconnecté de tout, et plus cette rupture facilite les dépaysements, les pièges, les artifices propices au fantastique. Dans le cas de La vida impossible, le fantastique trouve un terrain de prédilection dans l'ambiguïté née des silences des textes et également la plasticité générique des miniatures. On ne sait pas trop où les classer, hein, encore une fois, qui renvoie d'ailleurs peut-être au motif du monstre. Alors si le monstre est cet assemblage hors norme d'éléments disparates, alors les textes hybride, polymorphe, indéfinissable et presque innommable, si on regarde la multiplicité des dénominations possibles, ici mises en recueil, ont quelque chose de monstrueux, avec de gros guillemets. Mais si l'hyperbref favorise l'apparition et le développement du fantastique, peut-être que réciproquement, c'est le choix d'un regard étrangeant qui va entraîner le recours à l'hyperbref comme dans une interaction permanente. En tout cas, le fantastique berthien, il me semble, enseigne à voir au-delà du thématisme, au-delà des thèmes. Parce qu'il met en question les limites dans sa propre définition et dans ses thèmes, il illustre à la fois la contestation des frontières entre les catégories formelles et génériques et le franchissement des frontières qui bornent les textes. Et quant à son affinité singulière avec la forme brève et plus encore avec la forme hyperbrève, elle renforce son rôle de catalyseur de jeux transgénériques. Donc pour toutes ces raisons, le fantastique est plus que le reflet de l'écriture berthienne, il en est aussi le noyau. Les correspondances qu'on décèle à plusieurs niveaux montrent à quel point les deux sont indissociables. Elles révèlent que l'écriture de Berti, notamment sa façon de pratiquer les genres, gravite autour de cet élément central qu'est le fantastique. Ce fantastique particulier, donc cet extrañamiento, est, je crois, pour beaucoup dans le plaisir que procure la lecture de Berti. Très, très lisible, finalement, dans la tradition, de Bioy Casares et Silvina Ocampo, l'œuvre joue avec la littérature, avec les codes, et elle se fait aussi très artiste, grâce à une étrangeté, une ambiguïté, un mystère et une beauté dont les derniers romans de Berti témoignent, je pense, assez nettement.